Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Delphine Ernotte a connu des jours meilleurs. La patronne de France Télévisions doit faire face sur deux fronts. À l'extérieur, il y a la tutelle, très critique à l'égard de l'audiovisuel public, à qui elle demande des efforts budgétaires. À l'intérieur, il y a la fronde des journalistes. Les rédactions de France Télé ont prévu de mettre au vote une motion de défiance à l'encontre de la présidente du groupe mardi prochain. En cause, un plan de 180 suppressions de postes, dont 30 pour l'information. Tous les services sont concernés, mais c'est l'impact de ce plan sur deux des programmes les plus emblématiques de France 2, Envoyé spécial et Complément d'enquête, qui a mis le feu aux poudres. Le projet initial envisageait d'y supprimer une vingtaine de postes à la faveur d'un changement de périodicité de ces magazines d'investigation. Finalement, le chiffre a été ramené à 3, mais le mal est fait. Alors, cette affaire témoigne d'une vulnérabilité du journalisme d'enquête qui coûte cher et donc qui sert de levier lorsqu'il est question de faire des économies, quand il ne s'agit pas de pur prétexte pour s'affranchir d'un genre qui dérange les pouvoirs politiques et économiques. Du coup, ce journalisme-là est obligé de se réinventer ailleurs, dans des structures indépendantes mais fragiles financièrement et donc instables. Alors pas de cash, pas d'investigation. Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités. Ils sont tous journalistes. Aurore Gorius, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'enquête pour le site Les Jours. Je dis d'enquête plutôt que d'investigation parce que vous m'avez dit l'autre jour au téléphone que vous préfériez ça parce que c'est moins pompeux.
Oui, parce que c'est moins pompeux et parce que c'est pas quelques journalistes qui font de l'investigation et les autres qui font d'autres choses moins intéressantes. Je pense que l'enquête, ça concerne tout le monde et que d'ailleurs, de plus en plus de rédactions se rendent compte qu'il faut en faire.
On verra en refaire. On verra si les autres invités revendiquent davantage cet appel de journaliste d'investigation. Vous travaillez en particulier sur des sujets économiques et politiques pour le site donc Les Jours. Vous avez publié chez Fayard les gourous de la com et vous avez également publié un petit fascicule, Les nouvelles voies du journalisme d'enquête. Ça date de 2014, mais c'est encore extrêmement pertinent. Je l'ai lu ce week-end et on y fera référence dans le cours de cette discussion. Pour discuter avec vous justement, Ariane Puccini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante au sein du collectif YouPress. Vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous venez de signer une enquête en plusieurs volets, trois volets, avec une autre journaliste, Elsa Doré, enquête sur l'impact des activités industrielles du bassin de Lac. Ça se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une enquête qui est publiée sur Bastamag. Juste d'un mot, on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais sur quoi porte précisément cette enquête ?
On s'est interrogé en fait sur l'histoire et en fait l'actualité aujourd'hui d'un ancien bassin gazier qui est situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Et après 50 ans d'exploitation, on a voulu savoir quelles étaient les conséquences sanitaires de cette activité. Et sachant qu'on arrivait dans un contexte où il y a un silence qui pèse sur les informations pour savoir en fait quels ont été les effets de cette activité sur la santé des riverains.
Vous nous expliquerez justement comment essayer de contrer et de surmonter ce silence. Troisième invité, c'est Jean-Baptiste Rivoire. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, ancien rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation, qui est une émission qui existait sur Canal+. Elle s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2016, je crois. Vous êtes toujours élu SNRT-CGT au comité d'entreprise de Canal. Et puis, quatrième et dernier invité, Jacques Monin. Bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous dirigez la cellule Investigation de Radio France et vous produisez Secret d'Info qui est diffusé chaque samedi à 13h20 sur France Inter. On peut entendre une version courte tous les vendredis dans le journal de 18h sur France Culture. Le dernier numéro de Secret d'Investigation était consacré à... de Secret d'Info, pardon. J'ai dit Secret d'Investigation.
Oui, mais ça fait rien. En plus, on diffuse aussi sur France Info, mais il y a un rendez-vous qui s'appelle Samedi Investigation.
Ah bah ouais,
en fait, on
ça,
a une direction transversale qui produit sur l'ensemble des chaînes. Voilà. Secret d'Info est un des vecteurs de diffusion de ce qu'on produit.
Voilà, qui consacrait son dernier numéro à Airbnb, à ses petits arrangements avec
la carte Payoneer qui vous permet de planquer du fisc à l'étranger, du fisc, de l'argent au fisc à l'étranger.
Alors, je voudrais qu'on démarre sur cette affaire à France Télévisions et l'émotion qu'a suscité l'annonce de ces suppressions de postes. Alors, des suppressions qui touchent l'ensemble des secteurs, qui touchent pas seulement les journalistes, qui parmi les journalistes ne touchent pas seulement des émissions d'investigation que sont Envoyés spécial et Complément d'enquête, mais c'est sur ces deux magazines que l'émotion a été la plus forte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Est-ce que c'est parce que ce sont peut-être des modèles de magazines d'investigation? Qu'est-ce que vous en pensez, Aurore Gorius?
Disons que des modèles, en tout cas, c'est vrai que par exemple Envoyé spécial dans les années 90, quand ça a été lancé, ça a été une des émissions qui a posé le format long en première partie de soirée à la télévision, avec un succès assez rapide, l'émission a eu du succès. Et du coup après, il y a eu beaucoup de formats investigation qui se sont développés en télévision, ça a été beaucoup copié, dupliqué sur plein de chaînes, et notamment après sur les chaînes de la TNT. Canal a fait ça aussi très rapidement. Donc c'est vrai qu'Envoyé spécial, c'est un peu quand même un espèce de totem du grand reportage et de l'enquête aussi à la télévision. Et du coup, je pense qu'il y a eu aussi une émotion par rapport à ça. Par ailleurs, je pense que Enquête, le magazine d'enquête aussi...
Complément d'enquête
avait réussi à s'installer. Donc c'était quand même deux symboles importants à une période où on sent bien que l'enquête, l'investigation... Enfin, ça a toujours été comme ça, mais on sent bien qu'il y a cette grande discussion autour des groupes du CAC 40 qui autorisent ou pas, qui laissent la marge de manœuvre ou pas pour enquêter. Donc on est aussi dans cette atmosphère, ce débat-là, quoi.
Jean-Baptiste Rivoire.
Dans l'audiovisuel, c'est le dernier bastion. Il y avait quand même pas mal d'investigations à Canal. C'est terminé, Vincent Bolloré n'en veut plus. Il reste France Télévisions, donc Complément d'enquête, Envoyé spécial, et derrière, c'est Cache Investigation. C'est-à-dire que c'est les trois derniers bastions de l'investigation télé en France. Le fait que le pouvoir politique décide d'une façon générale de les attaquer, d'une certaine façon, sous couvert d'économies budgétaires, bien sûr, pour moi, c'est absolument pas anodin. C'est-à-dire que dans un contexte où une dizaine de milliardaires industriels possèdent l'essentiel de la presse, dans un contexte où Vincent Bolloré a détruit l'investigation sur Canal+, et l'impertinence de la chaîne, venir aujourd'hui s'attaquer à ce qui reste d'enquête audiovisuelle dans le service public de la télévision, pour moi, c'est extrêmement grave.
Quand vous dites que le pouvoir politique a décidé de s'y attaquer, c'est pas une attaque directe, c'est la direction de France Télévisions qui a annoncé un plan et qui a choisi de fractionner les suppressions de postes. Vous voulez dire que quand on décide de restrictions budgétaires, on pense forcément que ça va toucher ces magazines-là ?
Non, je dis juste qu'il y a une histoire, si vous voulez. Il y a un bras de fer terrible entre Envoyé spécial et la tutelle, il y a quelques mois, dans l'affaire Big Malion, où Envoyé spécial révèle les magouilles de financement de campagne de Nicolas Sarkozy. Delphine Ernotte arbitre jusqu'au dernier moment en faveur de Nicolas Sarkozy. Elle ordonne à Élise Lucet de déprogrammer cette enquête. Heureusement, les journalistes résistent. Au début de l'été, dès que Emmanuel Macron est élu président, on a une décapitation du journal de 20h. Alors, c'est pas la question pour ou contre Pujadas, mais enfin, le patron du 20h qui est puissant, qui est en train de rattraper TF1, est viré. Tous ses rédacteurs en chef sont virés. Je crois comprendre qu'on a demandé à Laurent Delahousse de le remplacer. Bon, finalement, ça a été Anne-Sophie Labix, mais peu importe, c'est une fragilisation du 20h. Et là, maintenant, sous prétexte de coupes budgétaires, on s'en prend à deux émissions avec des gens qui sont pas très bien payés, qui bossent 14 heures par jour et qui font beaucoup d'antennes, et c'est les seuls qui font de l'investigation.
Ariane Puccini et Jacques Monin, vous êtes d'accord pour dire que cette annonce-là, elle s'inscrit dans un climat, disons, qui est peu favorable au journalisme d'investigation ?
Disons qu'il y a un effet un peu contradictoire, en fait, parce que quand on est sur le terrain et qu'on annonce qu'on travaille sur des sujets d'enquête, la réception des gens qu'on interviewe, les victimes, l'auditeur, le téléspectateur, c'est plutôt un retour de respect, et on nous explique souvent que c'est un format qui est intéressant, utile, et on nous cite souvent Cache Investigation comme le modèle aujourd'hui, parce que c'est vrai que Élise Lucet et son équipe ont créé un format qui est un peu frappant et qui marque les esprits. Et,
à tel point d'ailleurs qu'elle est presque, elle a presque réussi à incarner à elle seule ce qu'est le journalisme d'investigation en France.
Voilà, on vous demande si vous faites du Élise Lucet. Mais disons que paradoxalement, il y a ces jeux de pouvoir en haut lieu. Mais sur le terrain, c'est une nécessité qu'on nous rappelle, en fait.
Jacques Monin.
Moi, j'ai pas tout à fait la même analyse. J'ai pas l'impression que la direction de France 2 s'en prend en tant que telle à l'information. Enfin, je veux dire, je vois pas de changement majeur, franchement, entre le journal de Sophie Lapix et celui de David Pujadas. C'est la même équipe qui travaille derrière. C'est la même rédaction en chef. Le déroulé du journal est pas fondamentalement différent. Simplement, on a changé la vitrine, quoi. Non, moi, ce que je trouve désolant dans cette affaire, c'est que ça traduit plutôt cette espèce de logique comptable qui préside à des décisions qui sont pas des attaques frontales, mais qui sont juste, voilà, on a tant de millions à économiser, et comme il faut que tout le monde y passe, et ben on se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui doit être prioritaire et qu'est-ce qu'on doit sanctuariser, on tape partout. Simplement, ça fait plus mal quand on tape effectivement sur l'investigation, parce que l'investigation aujourd'hui, dans un monde où la communication et où effectivement les gros intérêts des grandes multinationales notamment ont pris le pouvoir, l'investigation devient plus essentielle que jamais. Et donc elle est quelque part là aussi pour protéger le citoyen, lui garantir une information qui aille au-delà des apparences et au-delà de ce qu'on ne veut pas nous dire. Et si on n'a pas ça, si on se contente effectivement du tout venant, c'est-à-dire du suivi de l'actualité qui est du copier-coller d'une chaîne à l'autre, eh ben on n'a plus d'identité, on n'a plus d'âme et on n'a plus une information citoyenne. Donc là, on touche à quelque chose de vital qui fait que, qui explique, je pense, la réaction qui a été plus importante sur ce qui concernait l'investigation par rapport à d'autres domaines de l'information.
Mais si on se place d'un point de vue strictement comptable, Jacques Monin, est-ce qu'il y a une logique à se dire que si on doit faire des coupes budgétaires, c'est peut-être et dans l'information, et il faut le faire du côté du journalisme d'enquête parce que c'est ce journalisme-là qui coûte le plus cher. Est-ce que ça coûte cher, oui, par exemple, à Radio France de faire une cellule d'investigation ?
On peut raisonner exactement à l'envers. On peut raisonner exactement à l'envers. Enfin, je veux dire, Radio France et la démonstration. Alors moi, je veux pas ici opposer Radio France à France Télévisions. C'est absolument pas mon propos. Je veux simplement dire que on est à Radio France dans la même situation que France Télévisions aujourd'hui, où on avait un budget en déficit et on a encore des efforts budgétaires à faire, 25 millions d'euros qui nous tombent sur la tête pour 2018. Il n'empêche que la direction des enquêtes et de l'investigation a été créée il y a 3 ans à Radio France et elle est montée en puissance ces dernières années dans un contexte budgétaire qui était contraint. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut faire des choix aussi qui sont ceux de privilégier ce type d'information parce qu'on considère qu'elle est vitale et importante et qu'elle correspond à l'ADN de ce qu'on doit produire pour nos auditeurs sans que pour autant ça grève le budget. Je veux dire, des choix, on peut les faire aussi ailleurs.
Jean-Baptiste, au revoir.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, on est quand même dans un monde où la communication, les puissants, enfin, il y a des moyens considérables qui sont mis pour intoxiquer l'opinion. On va se parler franchement. Bon. Donc si en face, il n'y a pas une énergie forte journalistique, l'opinion, elle y comprend que dalle. Donc, il faut mettre des moyens. Mais je veux dire, quand on dit l'investigation, c'est cher, enfin, pardon, je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, mais on a décidé ces dernières années de développer une chaîne d'infos en continu à France Télévisions. Il y avait déjà LCI, il y avait déjà BFM. Bon, on va tous faire des chaînes d'infos en continu. Les chaînes d'infos en continu, on travaille rapidement, on ne fait pas d'enquête, on sort sur l'actualité. Il y a une centaine de postes, d'après ce que j'ai compris, dans cette chaîne. Bon, est-ce que l'urgence, c'est d'aller éradiquer les pauvres 30 confrères qui font un peu d'enquête approfondie à complément à un envoyé spécial? Pour moi, ça a un sens politique de faire ça. C'est pas anodin.
Voilà. Mais est-ce que justement, Aurore Gorius, l'accélération du temps de l'information ne rend pas d'autant plus perceptible cette idée que faire du journalisme d'investigation, ça coûte cher, c'est-à-dire le temps s'accélère, on privilégie de plus en plus les formats courts. Est-ce que ça ne renvoie pas l'investigation vers quelque chose qui prend du temps, qui nécessite des formats longs et qui est donc peut-être moins adapté aussi aujourd'hui à la tendance qui existe dans la plupart des médias?
En réalité, moins adapté, c'est ce que disait tout à l'heure Jacques Monin, les médias...
Je dis pas que c'est le cas, mais est-ce que c'est pas comme ça que c'est perçu, en tout cas, dans de nombreux médias.
Oui, mais il y a de plus en plus de médias, notamment la presse papier, qui s'est largement mise à développer les sites Internet, s'est rendu compte que la logique du flux et la logique de copier-coller des dépêches et d'avoir les mêmes contenus partout qui uniformisent tout ce que dit la presse, en réalité, on ne peut pas arriver à attirer des lecteurs avec ça. Les lecteurs se blasent, les lecteurs ne veulent pas payer pour ce type de contenu, ça ne marche pas. Et du coup, pour faire vraiment payer les sites Internet, par exemple, pour faire payer les lecteurs, pour faire venir les lecteurs, il faut de la valeur ajoutée.
Il faut de l'enquête.
Il faut de l'enquête. La seule façon de créer de la valeur ajoutée, c'est de l'enquête, c'est d'enquêter. Donc en réalité, quand on dit ça coûte cher de faire de l'investigation, en réalité, c'est juste une logique bêtement comptable, parce qu'en réalité, si on réfléchit un tout petit peu plus, on pousse la réflexion un peu plus loin, il faut mettre des moyens, et c'est une façon qu'on... Alors, par exemple, Mediapart a fait la démonstration qu'on peut développer sur Internet un site qui fait beaucoup d'enquêtes, qui ne fait pas que de l'enquête tout le temps, mais qui fait beaucoup d'enquêtes et qui attire massivement les lecteurs, avec aujourd'hui 130 000 abonnés.
Sauf que Mediapart n'est peut-être pas un modèle duplicable, c'est-à-dire peut-être qu'il existe aussi.
Non, mais prenez le journal
Le
Monde. Prenez le journal Le Monde. Il gagne pas d'argent, le journal Le Monde. Il a fait le choix de développer l'enquête. Et l'enquête, ça marche. Nous, on a montré récemment avec les Paradise Papers que le site web de France Inter a eu un bond de 20%. Je veux dire, on a fait le deuxième meilleur score. Et c'est pas une question d'audience. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça suscite l'intérêt des gens qui nous écoutent. Ça les intéresse. Plus 20%, c'est le deuxième meilleur score après la présidentielle. Donc, c'est bien que ça correspond à un besoin, à une attente.
Il y a une attente.
Ariane Pochini, vous avez fait, enfin, le choix. Je ne sais pas si c'est un choix, d'ailleurs, qui était délibéré, si c'était un choix un peu contraint, mais de faire publier votre enquête avec Elsa Doré, sur le site Bastamag. Alors, il faut peut-être d'abord dire ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce site et pourquoi finalement votre enquête elle se retrouve là et pas, par exemple, je sais pas moi, pas Radio France en format radio ou pas sur Le Monde ou pas, je sais pas moi, la télévision sur France 2.
D'accord. Alors, en fait, pour expliquer, pour situer Bastamag, en fait, c'est un site internet d'information nationale. C'est un pure player, donc il n'y a pas de papier, c'est uniquement sur internet. La majorité des sujets sont en fait traités, sont des enquêtes à forte connotation sociale, environnementale. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur ce sujet, en fait, on s'est interrogé, soit choisi, on est toutes les deux avec Elsa Doré, nous sommes toutes les deux journalistes indépendantes, on s'est interrogé du meilleur moyen pour rendre cette enquête visible. Bastamag fournit du contenu gratuitement, en fait, tous les articles sont en libre accès. Et en fait, en l'occurrence, avec notre enquête, l'acteur central de notre sujet, en fait, c'est le silence qui règne autour de ce bassin de gazier qui a été exploité. Et donc, on a voulu, étant basé en région, on voulait que on soit entendu, lu un maximum par les gens qui habitent le secteur, et aussi compter aussi sur le relais des réseaux de lecteurs, parce qu'autour de Bastamag, il y a une communauté de lecteurs très actifs sur les réseaux sociaux qui relaient beaucoup l'information. Donc c'était pas seulement.
Vous auriez pu proposer votre enquête à Sud-Ouest, par exemple, parce que là, si vous vouliez toucher les gens qui sont sur le secteur, il y avait pas mieux.
Et disons que Sud-Ouest n'a peut-être pas la même approche que nous. Nous, on a voulu travailler sur des formats très très longs, parce qu'on est sur trois volets de 20 000 signes. Donc c'est du travail très approfondi. Je pense pas qu'il y aurait eu la place dans Sud-Ouest, par exemple.
L'intérêt, c'est pour l'ensemble de la population. Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse de savoir si effectivement l'activité industrielle autour de là a des effets sur la santé des habitants. Récemment, nous, on a produit une enquête qui allait un peu dans le même sens, d'ailleurs, qui était à Fos-sur-Mer, hein, avec l'activité industrielle de Fos-sur-Mer qui donne des résultats. Enfin, on se rend compte qu'il y a une explosion des taux de cancer, y compris de sclérose en plaques, enfin, de maladies assez hallucinantes. Et on se rend compte que les RPACA, qui est donc l'organisme officiel chargé de mesurer ce qu'il y a dans l'air, ne mesure pas les particules ultra fines, qui sont les particules les plus dangereuses. Et il faut qu'il y ait un institut qu'on appelle éco-citoyen, mais dans lequel il y a des scientifiques, qui est donc un institut indépendant qui se soit créé pour mesurer ces particules et s'apercevoir que 80% de la composition de l'air est faite de ces particules ultra fines. Donc tous ces sujets-là sont passionnants et n'intéressent pas qu'un bassin local.
C'est vrai que nous aussi, on a mené cette enquête dans l'idée de s'adresser pas seulement aux gens du bassin, mais aussi à un niveau national, parce qu'il y a une question de réplicabilité du contexte. En fait, nous, on a travaillé sur des données de mortalité. On a en fait poursuivi une étude épidémiologique et souvent l'ARS, dans des cas de surmortalité autour de bassins industriels, se défausse de toute obligation de faire des études de surmortalité, et on a voulu prouver que c'était possible. Et donc, en parlant du bassin de lac, on a voulu aussi nous adresser à tous ceux qui vivaient dans des environnements pollués comme ça.
Si j'évoquais l'hypothèse de publier aussi dans un grand journal de la presse quotidienne régionale, qui d'ailleurs à une époque faisait aussi des enquêtes et faisait aussi...
On fait quasiment aussi plus la presse.
Remonter. C'est justement parce plus. Que c'est ce que je lisais dans votre fascicule que j'évoquais en début d'émission, Aurore Gorius, vous notez le fait qu'il y a effectivement quasiment plus d'enquêtes qui viennent de la presse quotidienne régionale. Pour quelle raison? Là aussi, c'est pour une question de coût, c'est parce que politiquement, c'est compliqué de faire de l'enquête.
Il y a une proximité très forte avec les pouvoirs locaux de la presse quotidienne, la PQR classiquement, et en même temps, la PQR a été rachetée par des grands groupes. Il ne faut pas oublier que le Crédit Mutuel possède tous les groupes, plein de journaux de l'Est et du Nord-Est de la France. Donc il y a forcément... Et puis il y a eu aussi l'affaiblissement de la presse dans les années 2000, quand il a fallu développer le net, etc., a conduit à moins d'enquêtes. Aujourd'hui, on y revient. Et d'ailleurs, alors il y a des modèles gratuits, mais sur le net, ce qui se lance aujourd'hui comme Médiacité ou Nous au jour, c'est des modèles par abonnement financés. Nous, on fait de l'enquête aussi, on fait du grand reportage, le reportage et de l'enquête. Et c'est des modèles, en fait, où... Alors nous, on est pareil, on est sur des séries de papiers. On prend une thématique, évidemment, qui est dans l'actualité. Par exemple, là, on a une grande série sur le plan social qui vient de commencer, le plan social chez Patrick Drahi à SFR. On prend des sujets comme ça, on s'en saisit et on fait des papiers relativement longs, plus ou moins longs. D'ailleurs, ça peut varier. Mais on prend un sujet et on le lâche pas pendant des semaines.
Et c'est un sujet qui serait plus compliqué à traiter, par exemple, à Libération ?
Peut-être, mais en tout cas, nous, ce qu'on a, c'est la longueur, en fait. On peut vraiment apporter sur plusieurs épisodes un journalisme en profondeur, et c'est là où on peut justifier de demander aux gens de s'abonner à 9 euros par mois, parce que sinon, si on reprend les contenus des voisins, ou si on raconte les mêmes histoires et qu'on colle à l'actualité en permanence avec les mêmes angles que les copains, ça va pas marcher.
L'identité du propriétaire d'un groupe de presse pèse beaucoup sur la nature des investigations qui peuvent être menées, Jean-Baptiste Rivoire.
Ah ben, écoutez, moi je peux parler de Canal où je suis depuis une quinzaine d'années, c'est extrêmement clair. Suite à la censure de l'enquête Crédit Mutuel sur ordre de Vincent Bolloré en 2015, la direction, enfin Vincent Bolloré lui-même a assumé cette censure en comité d'entreprise en venant expliquer qu'il fallait pas s'en prendre aux partenaires du groupe, aux banquiers, etc., parce que, ou aux propriétaires de l'immeuble, ce serait une bêtise. Et la direction a théorisé cette censure 15 jours plus tard dans une réunion du personnel qui est publique, hein, où ils ont dit il faut pas faire d'attaque frontale ou polémique contre les partenaires contractuels, actuels ou futurs. Ça, c'est très précis. Ça veut dire que nous, depuis 2 ans, on dit, mais attendez, nous, on est journalistes dans cette entreprise. Alors, qui sont les partenaires contractuels, futurs ou actuels, qu'il ne faut pas qu'on égratigne, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Alors, on attend la liste. Bon, ça fait 2 ans qu'on demande la liste. Autant vous dire que les partenaires contractuels futurs, on ne sait même pas qui c'est. Et donc, ça tombe comme ça. Là, je lisais dans Arrêt sur Image récemment qu'il y a eu un reportage sur les opposants au Togo qui a apparemment déplu, donc il a été supprimé du replay de Canal, etc. On est tout le temps soumis à ça. Et donc c'est très difficile de faire du journalisme dans ces conditions. Pour revenir d'un mot sur le succès de l'enquête, parce que vous le disiez, Jacques Monin, pour les Paradise Papers sur Radio France, ça a cartonné. Aurore aussi, dans les jours, vous avez le temps de gratter des sujets, donc vous sortez des infos, oui. Évidemment.
Notamment sur Bolloré, d'ailleurs.
Voilà, Cache Investigation, dont tout le monde à France Télévisions a dit ça ne marchera jamais, c'est trop difficile, les problèmes fiscaux, etc. Ça cartonne quand même une fois sur deux. Et ça veut dire quelque chose. Moi, je pense que ça veut dire qu'en fait, les gens, beaucoup plus qu'on ne le pense, nous, les journalistes installés à Paris, etc., les gens, ils en ont ras-le-bol de l'information qui est de la soupe, qui est de la reprise de l'AFP, qui est de la communication des ministères, qui veulent faire passer des messages, qui est censuré par les annonceurs publicitaires, parce qu'en permanence, dès qu'on va déranger un annonceur, on peut pas faire le sujet. Tout ça, je veux dire, ça finit par donner une information complètement insipide, et les gens s'en rendent compte. C'est pas pour rien que notre profession est discréditée et décriée. Mmh. Et quand il y a de l'enquête, moi, je pense que tout d'un coup, le public, il se dit, ah, tiens, là, on me dit quelque chose. Et moi, j'écoutais Radio France l'autre jour pendant les Paradise Papers. Mais je vous assure, les titres du journal, ça défilait. Tout d'un coup, j'entends ce truc-là. Je dis, ah, il y a de l'info. Je m'arrête, j'écoute un quart d'heure. Mmh. Mais évidemment, et je suis pas un cas particulier. Je pense que l'investigation passionne les gens parce que juste c'est de l'information et qu'on n'en faisait plus beaucoup.
Ariane Puccini, est-ce qu'il y a des titres auxquels vous n'auriez absolument pas envisagé de proposer votre enquête en vous disant que de toute manière, c'était impossible qu'ils puissent la diffuser? Vous évoquez par exemple Total. Alors, je sais pas s'il y a des groupes de presse qui peuvent avoir des liens directs ou indirects avec ce groupe-là, mais est-ce qu'il y avait des choses qui étaient totalement inenvisageables pour mener un travail d'investigation approfondi?
Ouais, je pense que, très sincèrement, enfin, comme le disait Aurore Gorius, ça aurait été difficile de proposer ce sujet à des groupes de presse locaux, en fait, je pense, parce qu'on a vu la couverture le traitement des cas de pollution. On sait que, en fait, aussi, on est dans un cas de figure où il y a de fortes pressions des entreprises qui sont implantées, qu'il y a aussi un très gros tabou des habitants, des riverains qui sont aussi salariés pendant un temps de ces entreprises.
Auxquelles vous avez été soumises, ces pressions d'ailleurs ?
Oui, on entend un peu ça, de même des lecteurs, des potentiels lecteurs qui on a beaucoup entendu, il ne faut pas cracher dans la main qui nous a nourris, c'était le leitmotiv qu'on a beaucoup entendu lors de notre enquête. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une énorme proximité entre les journaux locaux, régionaux, et les lecteurs, et puis les annonceurs, et puis les enjeux politiques. Voilà, il fallait qu'on sorte de cette bulle-là pour pouvoir raconter d'un point de vue un tout petit peu plus extérieur.
Et puis l'emploi. Tout simplement.
L'emploi, oui, l'emploi, exactement, qui était constamment mis en balance avec les questions environnementales.
A priori, Jacques Monin, ces pressions financières des annonceurs à Radio France, normalement, on y échappe, même s'il y a quand même
Radio
de
France,
plus en plus de pubs.
On y échappe, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que là, en l'occurrence, c'est pas forcément une question de gros médias ou petits médias. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé à l'Express, où à un moment donné, il y a eu un plan social, on a pressurisé, il y a un certain nombre de gens qui sont partis. De fait, on a enlevé, on a ôté des moyens, on a ôté la substance, la moelle épinière de ce journal, ce qui fait que maintenant, en matière d'enquête, il y a quasiment plus rien. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est un journaliste de l'Express, Jacques Trenceau, qui a quitté l'Express pour créer Médiacité dont on parlait tout à l'heure. Et donc ce sont des initiatives, j'allais dire, citoyennes locales ou sur des nouveaux modèles qui, paradoxalement, sont en train de contrebalancer un déficit qu'on trouve, mais à la fois dans les grands médias, et notamment les grands médias hebdomadaires, et dans la PQR. Mais c'est pareil, c'est-à-dire on se trouve toujours confronté et à des questions de moyens et à des questions d'intérêt ou de groupes d'intérêt entre effectivement annonceurs et possesseurs des médias qui n'ont pas envie qu'on leur retire 1 million, 2 millions, 3 millions de publicités. Donc effectivement, ça limite le champ possible de l'investigation.
Aurore Glorieuse.
Oui, je voulais revenir sur la communication dont parlait Jean-Baptiste Rivoire, parce que je pense que c'est vraiment un enjeu clé là pour la crédibilité des médias, de justement ne plus être collé aux sources, de ne plus être notamment collé aux politiques, de ne plus être et de se détacher. Donc l'enquête est nécessaire, et aussi nous, au jour, on croit vraiment que le fait d'avoir aussi des narrations assez longues qui s'étendent sur plusieurs épisodes avec des vrais choix de sujet, ça nous permet de ne pas être totalement collé aux sources, de ne pas être totalement non plus dans la rapidité de l'information, parce que plus on est dans la rapidité de l'information et plus on est dépendant des sources et notamment des communicants. Il faut savoir que les communicants aujourd'hui, dans le travail journalistique, ils sont là en permanence à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu économique, que ce soit dans le milieu politique, on est confronté à eux en permanence, et la seule façon de reprendre en main notre travail de journaliste, c'est aussi d'avoir le temps de creuser, d'avoir le temps de raconter. C'est pour ça que nous, on revient en fait au jour, on revient un peu aux fondamentaux de la presse, où il y a toujours eu dans la presse des enquêtes en plusieurs épisodes qui étaient racontées au long cours. On y revenait parfois plusieurs semaines après. En tout cas, on lâchait pas un sujet, et c'est sur le temps long qu'on peut vraiment apporter des choses nouvelles et ne pas être dépendant de la com.
Jean-Baptiste Rivoire.
Pourquoi les jours sont excellents dans le traitement en coulisses de ce qui se passe à Canal avec Vincent Bolloré depuis maintenant 1 an et demi? Parce qu'ils font des choix. C'est-à-dire qu'ils ont dit, là, il y a quelque chose qui est intéressant démocratiquement pour l'intérêt général, donc on va mettre des moyens, du temps, ils créent des contacts, etc. Les confrères habituels, ils n'ont pas le temps, ils doivent faire 3 papiers par jour, donc une fois tous les 2 mois, ils appellent, ils n'ont pas le dossier en tête, ils n'ont pas les sources, il n'y a pas de confiance, ils ont du mal. Quand un média investit sur un sujet important et le traite, il le traite formidablement bien.
Jacques Monin.
Et du coup, pour répondre à votre question, Hervé, tout à l'heure sur Radio France, qui aujourd'hui peut se permettre de faire de l'investigation? C'est pour ça que l'affaire de France Télévisions, elle est emblématique. Bah, ce sont effectivement soit des médias indépendants, qui, Aurore le disait, on veut vivre, nous, des ressources de ceux qui s'abonnent, c'est un peu le modèle Mediapart, soit le service public, je suis désolé, mais le service public, effectivement, vit de l'argent de la redevance, et du coup ne doit rien aux annonceurs, sinon un petit volant de publicité qu'on a sur certaines antennes de Radio France.
Ne doit rien aux annonceurs, mais a quand même un lien avec le pouvoir politique. Jacques Monin, alors les pressions politiques, vous en avez, c'était l'objet.
Pour le vivre de l'intérieur, voilà. Vous le savez, moi je le vis de l'intérieur, je suis à jeun d'avoir eu, sur moi en tout cas, la moindre pression politique en interne à Radio France.
En interne, mais en externe, vous avez un garde des Sceaux, François Bayrou, qui vous a appelé aller parce qu'il y avait une enquête sur le désemploi
fictif
au MoDem.
Le problème n'est pas que François Bayrou décroche son téléphone pour m'appeler.
Non, mais ça peut témoigner aussi d'une ambiance politique, disons, de défiance.
Mais ça, c'est un jeu, chacun est dans son rôle. On l'a dit tout à l'heure, il y a des communicants qui essaient de verrouiller effectivement l'information. Le rôle du journaliste, c'est de résister à ces communicants et de déverrouiller cette information. Si chacun fait son boulot, tout ira bien.
Si François Bayrou a appelé Jacques Monin, c'est que c'est sain. Parce qu'en général, nous, les pressions, ça s'est passé bien au-dessus à Canal. C'est pas les journalistes qui étaient appelés, c'était les patrons.
Oui, et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les intérêts économiques n'ont aucune incidence sur l'indépendance de l'information dans les rédactions de Radio France.
C'est ça, peut-être pas aussi vrai à France Télé.
Alors, peut-être, mais en tout cas, à Radio France,
plus de pub.
Je peux en témoigner. Et puis après, nous, on est là pour y résister. Mais encore une fois, c'est partout. Vous aurez des politiques qui décrochent leur téléphone partout trouvent ça normal.
Oui.
Mais on s'en fout. L'important, c'est pas qui nous appelle, c'est la manière dont nous, on gère ça.
Alors, ce qui est compliqué, effectivement, il faut résister à certaines pressions. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir le soutien de sa direction. C'est important dans des cas comme ça. Mais quand on est journaliste indépendant, comment est-ce qu'on arrive à résister? Alors, à la fois au coût que représente une enquête, mais aussi cette pression qui peut être faite justement sur les journalistes. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez créé ou rejoint, je ne sais pas comment ça s'est passé, Ariane Puccini, ce collectif YouPress qui regroupe un certain nombre de journalistes indépendants comme vous?
Voilà, alors on est 10 journalistes aujourd'hui. On s'est créé il y a 10 ans et donc c'était en 2007. Et c'est vrai qu'on était dans un contexte, je pense, un peu plus morose encore parce qu'on était donc en 2007. On entendait partout que Internet était en train de tuer l'information et qu'on allait tout tous mourir en fait et que les gens de toute façon se détournaient de l'information. Et c'était juste avant la création de Mediapart. Quand Mediapart s'est créé, on a beaucoup entendu que ça allait, que c'était voué à l'échec. C'était avant la création de la revue 21 et qui ont finalement montré que les gens s'intéressaient à des formats longs, creusés, fouillés, de l'investigation, de la vraie info.
Et donc vous avez dit quoi, donc, quitte à mourir, autant mourir à plusieurs?
Non, on s'est dit que de toute façon c'était pas possible. On a refusé en fait ce discours-là et on s'est dit qu'il était plus intelligent de se mettre ensemble. Donc on était concrètement des potes de promo, sortant de l'école de journalisme. Et on s'est associés en mettant en commun aussi bien le carnet d'adresses que nos retours d'expérience. Et donc on s'est serré les coudes pour mettre en place des projets de grand reportage, mais aussi d'enquête. Et c'est vrai que quand on est journaliste indépendant, ça reste quand même très difficile de faire de l'enquête, surtout dans les premiers moments de l'enquête, c'est-à-dire le moment où on défriche le sujet, où on s'interroge à savoir s'il y a vraiment un sujet et si on va pouvoir amener quelque chose de différent et de nouveau à la rédaction qui a déjà peut-être son équipe de journalistes, etc. Nous, on doit toujours apporter quelque chose.
Parce que c'est un investissement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, d'une certaine manière. C'est-à-dire, si vous passez beaucoup de temps et que finalement l'enquête n'aboutit à rien,
c'est un risque que nous supportons. Et c'est pas évident. Il y a eu des enquêtes qui sont tombées à l'eau, mais on s'accroche. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi dans notre collectif, parce qu'on apprend des uns des autres. Et aussi, c'est important aussi de travailler avec des rédactions avec lesquelles on travaille en confiance, c'est-à-dire des gens qui comprennent que c'est compliqué pour nous sur le terrain, qu'il faut nous épauler pour la prise en charge de frais, que parfois il faut pouvoir échanger, même si on est extérieur à la rédaction, on a besoin d'échanger avec un rédacteur en chef. Enfin voilà, c'est travailler en confiance et choisir bien les rédactions avec lesquelles on travaille.
Cette dimension collective, c'est quelque chose qui se développe dans le journalisme d'enquête, Aurore Gorius?
Ah oui, ça se développe beaucoup. Alors par exemple, moi j'étais aussi journaliste indépendante pendant quelques années. J'avais participé au tout début du consortium des journalistes d'investigation qui ont sorti LuxLeaks, SwixLeaks et compagnie. Et là, j'ai retrouvé une rédaction avec Les Jours où on est une équipe et c'est vrai qu'il y a une intelligence collective et qui permet justement de trouver les bons sujets, les bons angles, etc. Et en fait, au jour, en fait, on est aussi sur l'idée que non seulement, enfin, on est une petite équipe, mais en faisant des vrais choix, on peut vraiment apporter des choses différenciantes. Et c'est cette différence qui, aujourd'hui, est payante. Et c'est vrai que en même temps, on a les contraintes, évidemment, de développer tout ce qui est technologique, le site, les applications, etc. Donc tout ça a un coût. Il faut évidemment jongler avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces modèles de presse, c'est ce qui redonne une crédibilité à ce métier. Et c'est aussi ce qui redonne, je pense, une motivation aux journalistes eux-mêmes, c'est-à-dire d'aller gratter, d'aller chercher, d'aller enquêter. Et je pense que ça, c'est des choses, avec la crise de la presse, les journalistes ont été un petit peu précarisés, ils ont travaillé beaucoup tout seuls, etc. Et l'enquête, c'est quelque chose de fondamentalement collectif. Je pense que ça marche beaucoup à plusieurs.
Et d'ailleurs, un des modèles qui est développé par Les Jours, mais pas seulement, c'est aussi la publication d'ouvrages. Il y a par exemple les revenants de, je pense à celui-là,
les revenants de David Thompson, qui a reçu le prix Albert Londres.
Dont les bonnes feuilles sont souvent alors publiées d'ailleurs dans les magazines, oui, plus traditionnels. C'est aussi ce que vous évoquiez dans votre, oui, dans votre fascicule, Aurore Gorius, avec cette espèce de chose un petit peu bizarre, c'est-à-dire finalement des magazines qui ne financent plus directement l'investigation, mais qui publient des bonnes feuilles d'enquêtes qui sont faites à l'extérieur.
Voilà, et donc pas mal de journalistes d'ailleurs se sont retrouvés à faire des livres parce qu'ils n'avaient pas la place pour écrire ce qu'ils voulaient dans leur journal. Moi, quand je travaillais à François, il y a des années, ou même après Au Point, c'est pareil, on faisait des livres parce qu'on n'avait pas la place dans nos journaux pour faire des choses. Au jour, en fait, on a décidé carrément de dire nos formats longs sur le site peuvent donner lieu à des livres, et c'est le même texte qui donne lieu à des livres. On a un livre sur les revenants, un livre sur l'Empire, donc de Vincent Bolloré, un livre de Patricia Touranchot sur la préfecture de police. Enfin, on a des formats longs comme ça. Et alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que là où c'est intéressant, c'est que Les Jours, on a un an et demi d'existence, et la divine surprise, c'est qu'on a un lectorat très jeune. Donc on fait du format long, on fait des longs papiers en série, des épisodes, etc. Et c'est lu par on a 45% de notre lectorat qui a moins de 35 ans. Donc c'est pas une question de génération. Il y a aussi une appétence. On dit toujours les jeunes sont sur les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité, etc. Nous on constate que c'est pas vrai, qu'on a un lectorat qui est très jeune.
Sur le fait qu'il y ait certaines enquêtes qui soient faites à l'extérieur des médias, qui fassent l'objet de livres et qui ensuite se retrouvent dans les bonnes feuilles des magazines, est-ce que ça pose quand même pas un petit problème Jean-Baptiste Rivoire, de se dire finalement on va déléguer à des indépendants l'enquête et puis derrière voilà on se contentera de publier les meilleures feuilles du livre.
En tout cas moi le développement de ces médias indépendants je trouve que c'est un formidable signe d'espoir pour notre profession et d'un mot sur ces industriels.
Mais c'est quand même une façon de ne pas assumer à l'intérieur justement ce travail d'enquête.
Parmi ces industriels qui ont pris le contrôle d'un certain nombre de médias en France jusqu'à contrôler je sais pas 90% de la presse écrite, parfois certains d'entre eux ont l'impression que leur rêve en fait c'est de faire des médias sans journaliste. Enfin, regardez le nombre de gens qui sont partis de Libé, le nombre de gens qui sont partis de l'Express, regardez la crise à Télévision, où la direction a quand même fait partir au forceps sans journaliste. Donc, qu'est-ce que c'est que ces médias sans journaliste ? Alors, c'est peut-être le rêve de leur propriétaire, mais je pense que ce que montre le succès de l'enquête, c'est qu'au fond, le public, il veut de l'information, il veut du journalisme, et donc ces grands patrons de presse, ils vont être obligés de se dire à un moment donné, mais en fait, à force de vider nos médias de leur force vive, et ben, plus personne ne va les lire. Et du coup, effectivement, ils vont aller chercher des enquêtes chez des indépendants qui les font, parce que ça prouve bien qu'il faut bien de l'enquête dans ces médias, sinon il n'y a plus rien, quoi.
Et d'ailleurs, les bonnes feuilles, souvent, font la une des journaux qui les publient, parce que c'est tout à coup un contenu très attrayant, etc.
Mais après, différenciant, ce qui est quand même surréaliste, effectivement.
Mais c'est vrai que c'est très bizarre pour les journaux aussi de ne pas publier ces enquêtes, de ne pas être capable de développer ça en interne dans les rédactions et de devoir passer par le prisme de l'édition pour ramener ça en une du journal. C'est vraiment un espèce de détour qui montre à quel point la presse papier
est malade.
Voilà, il y a un modèle là qui a perdu vraiment de son contenu et de sa qualité. Ouais.
Jacques Onin.
Non, juste une chose, c'est que parce qu'on parle journaliste d'investigation comme si on était là pour finalement perpétuer quelque chose qui s'est un peu perdu, qui a été en danger et qui est nécessaire et indispensable, on l'a déjà dit. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que le journaliste d'investigation, il est en train de se moderniser, il est en train de se transformer. Et on parlait du modèle collaboratif, notamment du consortium international de journalisme, mais il y a deux directions dans lesquelles on va aujourd'hui et dans laquelle moi j'essaie d'emmener justement la direction d'investigation de Radio France, c'est à la fois le numérique et le collaboratif. Alors le collaboratif, c'est vrai qu'on est sur des sujets aujourd'hui qui sont éminemment transversaux et transnationaux. Enfin, je veux dire, l'évasion fiscale, puisqu'on parlait des Paradise Papers, ça concerne tous les pays, ça concerne tout le monde.
350 journalistes.
C'est plus que ça.
C'est plus que ça.
C'est énorme. 387. Mais 96 médias sur l'ensemble de la planète. Et c'était 13,5 millions de données. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je dis que ça va avec le numérique. Le numérique, c'est que avant, on avait, on faisait du recel aussi. On en a toujours fait. Enfin, je veux dire, le recel du secret de l'instruction, c'est un truc qu'on a toujours fait. C'est vrai. Aujourd'hui, le recel, ça passe aussi par des fuites. Alors, on peut discuter. Est-ce que c'est des lanceurs d'alerte désintéressés? Est-ce que ça vient au contraire de piratage? Ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, on est parfois dépositaire d'un certain nombre de documents dont le volume est tel qu'on ne peut pas le traiter tout seul. Donc pour le traiter, on se met à plusieurs. Et on se met à plusieurs, c'est intéressant d'abord parce qu'on est plus efficace et ensuite parce qu'on peut traiter des sujets qui ont une dimension planétaire. Et on devient aussi plus fort vis-à-vis notamment de multinationales qui ont des moyens monumentaux avec des cabinets d'avocats hyper puissants. C'est vrai que quand on est un petit média indépendant, je veux dire, on ne peut pas se payer même Bolloré. Hein. Il suffit qu'on bouge une oreille, boum, on se prend un procès. Et on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Là, quand on est à 96 et que tout le monde sort la même information au même moment partout, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer ou de faire pression sur un média.
Ariane Puccini, on est presque au terme de l'émission. Une question que j'aurais peut-être dû vous poser à tous les quatre au début, mais enfin, on n'aura peut-être pas forcément le temps de vous faire tout se passer, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu à un moment donné envie de devenir journaliste d'investigation? En tout cas, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ou c'est parce que être freelance, ça supposait justement de vous mettre dans ce créneau-là qui n'était pas couvert par des médias plus traditionnels?
Oui, je pense que c'est en fait c'est une logique qui était dès le départ dans la création de notre collectif. L'investigation ou l'enquête est le genre noble du journalisme qui concentre tout ce qu'on fait de terrain, de sommes d'informations qu'il faut rendre digestes et qu'il faut mettre en perspective. Donc c'était logique en fait que on s'attaque aussi bien au grand reportage qu'à l'enquête. Donc il fallait qu'on le fasse ensemble dans notre collectif.
Aurore Gorius, je ne sais pas si vous donnez encore des cours, mais je crois que vous avez en tout cas donné des cours sur le journalisme d'investigation. Vous leur dites quoi aux étudiants? C'est-à-dire vous dites faut y aller ou au contraire
Je leur dis qu'il faut y aller et que l'enquête c'est le cœur du métier en réalité, que tous les journalistes doivent en faire. Alors on n'a pas le temps d'en faire tout le temps, on ne peut pas dans tous les médias en faire en permanence, mais que c'est aussi un espèce de moteur dans son métier qui est essentiel et que par ailleurs alors évidemment, et puis je leur dis aussi la même chose que ce qu'on vient de dire, mais je le répète, pour ne pas être manipulé par les communicants et par toute toutes les tentatives de propagande diverses et variées, je pense que l'enquête est fondamentale. Et par ailleurs, par rapport aussi à tout ce qui est fake news, on n'en a pas parlé, mais tout le développement des fake news qui se propagent, et voilà, je pense qu'une information vérifiée, une information vraiment recoupée, qui apporte des choses nouvelles et de la vraie info, c'est ce qui va permettre de nous sortir par le haut de la situation.
Jacques Menin, juste d'un mot, tous les jeunes journalistes qui nous auront écoutés ce soir, s'ils veulent faire de l'investigation, ils vous envoient leur CV.
J'ai peur de les décevoir. Malheureusement, on n'est pas extensible. Mais oui, je veux dire, effectivement, ce que vient de dire Aurore, j'y souscris tout à fait. Et c'est ce qui réhabilitera les journalistes à un moment donné où on ne sait plus effectivement ce qui est vrai, ce qui est faux, et où toutes les informations ont un peu la même hiérarchie. Notre boulot, c'est d'hiérarchiser justement.
Et bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jacques Monin, Aurore Gorius, donc je renvoie au site des jours. Jacques Monin, c'est donc Secret d'Info, notamment sur France Inter le samedi. Jean-Baptiste Rivoire de Canal+, Ariane Puccini, le site de Bastamac pour votre enquête consacrée à l'impact sur la santé publique des activités industrielles de la zone de Lac, enquête que vous avez faite avec Elsa Doré. Merci à toute l'équipe du Grain.